When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
J'ai tellement idéalisé ma mère que je voulais être elle. Donc, je ne serai jamais enceinte. Hein. C'était une blague. Je sais, mes amis féministes, pardon. C'était une blague. Je n'ai pas dit que j'enviais d'être enceinte. Je ne veux pas prendre votre place, pardon. C'était juste une blague.
Tant que je serai noire, c'est le podcast qui répond à la question « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Tant que je serai noire, ce sont des récits de femmes qui nous parlent de leur désir ou non-désir d'enfant. Un podcast qui nous montre à quel point les récits des femmes et hommes interrogés sont aussi intéressants que les mille vies de Maya Angelou. Je suis Tsipora, la créatrice et productrice de Tant que je serai noire. Retrouvez un épisode un lundi sur deux. Avant de commencer, si vous faites partie de la team iPhone, j'ai besoin de vous pour relever un défi. Obtenir 1000 notes sur Apple Podcast avec à chaque fois 5 étoiles. Pourquoi ? Afin d'augmenter la visibilité du podcast. Allez, le défi est lancé. Alors, c'est la première fois en 3 saisons que je reçois un monsieur au micro de Tant que je serai noire. Là, je sens que Mahong a une pression impossible à définir. Mahong est photographe. De par son activité, il est aussi papa à plein temps de 2 enfants. Dans cet épisode, Mahong nous parle des femmes qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Il parle aussi de l'impact qu'elles ont eu dans sa vie de père. Avec beaucoup de bienveillance et de transparence, Mahong nous parle de son cheminement vers la parentalité bienveillante. Bonne écoute!
Je m'appelle Mahong, j'allais dire 32 ans. Le gars qui a trop cru qu'il était jeune. J'ai 42 ans, je vis en concubinage, j'ai 2 enfants de 5 ans, 3 mois, ça doit être 5 ans, 4 mois maintenant, et 2 ans et 6 mois. Donc une fille, c'est l'aînée, et un garçon. Je suis photographe et photographe réalisateur. Mais mes activités sont plutôt autour de la photographie ces derniers temps. Je suis d'origine camerounaise, je pense que c'est utile de le dire. J'ai grandi élevé par une mère célibataire, en tout cas célibataire à partir du moment où j'avais 11-12 ans. Mon frère avait 2 ans de plus que moi, donc la plus grande de mes petites sœurs 3 ans de moins et la plus petite de mes petites sœurs 4 ans de moins que la plus grande de mes petites sœurs. C'est compliqué, mais... J'ai vraiment grandi entouré de femmes. Ma mère, mes tantes, même à distance, la nourriture qui était envoyée par ma grand-mère. Bon, faut savoir que mon père était opposant politique camerounais, ancien indépendantiste upéciste. Et donc, du coup, il est resté jusqu'à sa mort avec sa psychose de l'assassinat politique, de la persécution, de l'emprisonnement. Et ça l'a suivi jusqu'à un ultime exil qu'il a fait... à Berlin, parce que en fait, avant de venir en France, il s'était exilé en Allemagne de l'Est, à Berlin-Est. Et d'ailleurs, il avait eu un enfant là-bas, avec qui on a repris contact et qui est notre frère de fou, mais qui est beaucoup plus âgé que nous, mais beaucoup plus en vrai, pas tant que ça, vu que là, il a 55 ans, je crois. J'ai un grand frère allemand, métis allemand, et qui est génial. On est allé pour la première fois au Cameroun en 87, j'avais 8 ans, et en fait, c'est des souvenirs qui sont dans mon crâne, comme si j'y avais... On est resté que 2 mois, les 2 mois des vacances, et on était juste avec ma mère, mon père n'était pas venu. Dans mon schéma, il y a vraiment ma grand-mère qui est là, alors qu'on était allé au Cameroun qu'en 87 et ensuite en 2002. Mais ma grand-mère, c'est l'un de mes piliers. En fait, ma mère, c'est mon pilier sans aucun doute. Mais en rencontrant ma grand-mère, c'est pas du tout le même caractère. Ma mère a un caractère plutôt calme. Ma femme dit que c'est... En fait, je dis, bon, quand on voit ma mère, on croit que c'est un ange, mais elle sait se défendre quand vraiment c'est nécessaire. Et je dis souvent qu'elle est comme un ressort. Quand tu marches dessus, d'ailleurs, je crois que c'est même elle qui avait dit ça à un de ses responsables quand elle était devenue cadre infirmier. Et elle disait qu'elle est comme un ressort. Si tu veux l'écraser, quand tu enlèveras ton pied, elle sautera encore plus haut. Et c'est vraiment la personne qui veut du bien à tout le monde, qui pardonne tout trop vite. Mais par contre, il ne faut quand même pas la chercher. Et ma femme, en fait, qui est très observatrice, lit dans le regard de ma mère qu'il ne faut quand même pas l'ennuyer. Alors que ce n'est pas évident, mais elle est vraiment très observatrice. Et je pense que la manière dont elle a surmonté tout ce qu'elle a surmonté, elle l'a surmonté comme ça parce que, en fait, elle a toujours été dans une dynamique positive. Et franchement, je ne l'ai jamais vu se plaindre. Même quand, au moment de la période du divorce, ça dégénérait et que je m'interposais avec mes 11 ans et 1m74. Mais bon, je ne faisais pas le poids. Hein. Si mon père avait voulu, bon, dans ces moments d'embrouille, il n'était pas violent avec moi, contrairement à d'autres moments. Mais s'il avait vraiment voulu être violent, mais... sa cible, c'était ma mère. Donc, moi, je me mettais entre les deux. Et du coup, j'étais surnommé l'avocat du diable. Et donc, du coup, il m'appelait l'avocat du diable, comme si c'était mon prénom. Et je me souviens même d'un moment que j'ai presque jamais raconté, en tout cas, jamais publiquement, où il y avait eu une embrouille entre ma mère et mon père. Et nous, on entend des cris. Moi, avec ma grande bouche et le côté « j'ai peur de rien », j'ouvre la porte de leur chambre et je vois mon père qui agressait ma mère, qui était au-dessus d'elle. Mais bon, ils étaient habillés, c'était pas une agression sexuelle. En tout cas, bon, en vrai, à cet âge-ci, tu t'en sais rien. Mais en tout cas, bon, ils criaient, ils s'embrouillaient. Et donc, du coup, j'ouvre la porte et je dis à mon frère, il faut qu'on la défende, il faut qu'on la défende, à mon grand frère. Et donc, du coup, on fonce vers lui. Bon. Et donc, on fonce vers lui et on attrape chacun de ses bras et on le jette au sol, alors qu'il était costaud, hein. Et j'avais 11 ans, mon frère 13, et mes sœurs sont venues alors qu'elles étaient minuscules et elles ont tenu chacune de ses jambes. Alors qu'en vrai, bon, il ne s'est pas trop débattu. Pour moi, le résumé de l'état d'esprit de ma mère, le côté « c'est un ressort, si tu lui marches dessus, elle rebondit », c'était que pour elle, avoir subi des violences face à ses enfants, c'était hors de question. Et là, c'était trop. Et à ce moment-là, comme mon père, donc nous quand même, on était lourds, donc sur chaque bras, il ne pouvait pas vraiment bouger ses bras. Et, à ce moment-là, ma mère, juste avant, elle part, et elle revient sur ses pas, elle attrape son pouce, et elle le mord. Et il crie. Ah, il crie. Et après, elle arrête de le mordre, et elle part. Et après, elle dit « Venez les enfants ». Et là, on est parti, on a quitté l'appartement. Et là, c'était le seul moment où j'ai ressenti le stress par rapport à la situation, par rapport à... On a quitté l'appartement, on était dehors, dans la ville, et on marchait. Dans la ville, avec notre mère. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Hein. Elle a dû passer à la cabine téléphonique peut-être une ou deux fois. Je ne me souviens plus bien. Et c'était juste question de laisser redescendre la tension pour revenir à la maison, en fait. Et je me souviens... N'importe quoi. L'une des inquiétudes qu'on avait avec mon frère, c'était maintenant que papa et maman sont vraiment fâchés, vu que c'est papa qui paye Canal+, c'était peut-être la seule chose qui paye. Hein. Vu que c'est papa qui paye Canal+, peut-être qu'on n'aura plus Canal+ et qu'on n'aura plus la télé. Je ne sais pas s'ils nous avaient déjà menacé de ça avant ou quoi, mais ça, c'était l'inquiétude. Et il y avait le stress, on se disait, bon... Et en plus, je me souviens de balades qu'on avait avec ma mère où gamin, je lui disais « Mais maman, tu sais, j'ai vu à la télé que tu peux divorcer. » Et elle, là, peut-être j'avais 10 ans. Peut-être même 9, hein, parce que c'était bien avant le divorce. Et elle disait « Non, mais c'est pour vous que je reste. » Mais en vrai, quand le niveau de manque de respect, de violence a dépassé les bornes, moi, je ne suis pas du genre à dire que, bon, si la violence n'a pas été trop forte, tu peux rester. Moi, je suis du genre à dire, si la violence a commencé, c'est qu'il faut partir. Même si, en réalité, des copines m'ont raconté des histoires en me disant qu'il y a eu la preuve que, notamment par rapport à leur père, que le père, on ne sait pas quel électrochoc a joué et il est devenu subitement non-violent, des fois avec la vieillesse, des fois avec... Mais combien d'années se sont passées de calvaire, de séquelles intérieures par rapport à l'ego, par rapport à... pour en arriver à la période de calme où le couple ne s'aime pas vraiment, c'est juste une habitude, le couple est là, tu restes, et bon, les rapports sont apaisés, mais en fait, t'es resté, t'as gâché ta jeunesse avec un gars violent. Donc du coup, ma mère, finalement, s'est résolue à divorcer, à mon avis, pas par rapport au fait qu'on lui ait dit qu'on était gamin, hein. « Moi, depuis l'adolescence. En fait, je pense que j'ai tellement idéalisé ma mère que je voulais être elle. Donc, je ne serai jamais enceinte. Hein. depuis que c'était une blague, je sais, mes amis féministes, pardon, c'était une blague. Je n'ai pas dit que j'enviais d'être enceinte, je ne veux pas prendre votre place, pardon. C'était juste une blague. Parce que je sais, je vois quelques visages là qui potentiellement pourraient vouloir sortir la guillotine. Oui, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants depuis l'adolescence. Et je me souviens même que je regardais à l'époque où je devais avoir 14 ou 15 ans, je regardais la maison des maternelles tout le temps. Je ne le loupais jamais. L'un de mes nombreux surnoms, c'était même au quartier, c'était même Mahong les maternelles. Bon, ce n'est pas celui qui sortait le plus, hein, mais en tout cas, il y a eu ce surnom qui a été sorti à un moment. Et j'étais très fier de ce surnom. Je me disais qu'à 25 ans, j'aurais déjà 3 enfants. Parce qu'en fait, ma mère, à 25 ans, avait déjà... Donc, attends, à 19 ans, elle a eu mon frère. À 21 ans, elle m'a eu. À 24 ans, elle a eu ma sœur. Et à 28 ans, elle a eu la dernière. Donc, moi, je me disais, à 25 ans, je vais avoir 3 ans. J'aurais eu 3 enfants. Il y a quelques détails de l'équation qui manquaient, c'est ça. Il manquait une personne déjà, il manquait une stabilité intellectuelle, même si je ne suis pas sûr d'être la personne la plus stable intellectuellement qui soit, je pense que ma folie est toujours là, mais en tout cas en tant que père, c'est le meilleur rôle de ma vie, sans aucun doute, c'est le rôle dont je suis le plus fier. Tout en n'étant pas un père parfait, même si ma mère dit souvent le parent parfait, c'est le parent, n'importe qui est le parent parfait de son enfant. Personne ne peut être un meilleur parent de ton enfant. Parce que c'est ton enfant et que la connexion, c'est entre toi et lui. Donc, même si à un moment, tu as eu des failles, même si à un moment, tu n'as pas été le meilleur père, la meilleure mère, c'est toi le meilleur parent de ton enfant. Et à partir du moment où tu en as conscience, tu le deviens encore plus. Ça se concrétise encore plus. Ben en fait, moi, mes enfants, ma fille, avant qu'elle rentre à l'école, elle était surnommée, elle l'est toujours d'ailleurs, ma petite ombre. Parce que c'est ma femme qui avait dit que c'était mon ombre. Et moi, comme voilà, selon la lumière, en tant que photographe, je vais faire un cours de lumière. Selon l'orientation de la lumière, nos ombres sont plus ou moins étendues. Et du coup, comme c'était vraiment un bébé, elle était tout le temps en écharpe de portage sur moi. Vu qu'en tant que photographe, s'il n'y a pas de contrat, j'étais à la maison. Et les contrats étaient souvent le week-end quand il y en avait. Et ben, du coup, j'étais tout le temps avec la petite et tout le temps avec les enfants. Et le petit, j'ai décidé de faire pareil. On a décidé de faire pareil. Voilà, mes enfants, c'est mes ombres. Je suis tout le temps avec eux. Je vais même dire que quand il y a des grèves à l'école ou quand il y a eu le confinement numéro 1 là, en mars, mais moi, j'étais aux anges. C'est rare que les instits dans l'école dans laquelle elle est soient absents. Mais quand il y avait des absences, quand on nous dit « Bon, l'instit va être absente, mais si vous devez absolument déposer votre enfant, déposez-le, il sera mis dans une autre classe, etc. » Mais moi, il n'y a même pas de question. Bon, les enfants, on va être ensemble toute la journée, on va faire ci, on va faire ça. Surtout que moi, vraiment, le développement des enfants, c'est ma passion. Donc, malheureusement, il y a des livres que j'ai achetés et que j'ai lus qu'en diagonale, Les lois naturelles de l'enfant. Et je sais qu'il faut absolument que je lise ce livre, précisément parce qu'il est vraiment très puissant. Et en fait, j'ai regardé énormément de choses sur YouTube ou sur le site, d'ailleurs, qui doit être le site Les lois naturelles de l'enfant, je ne sais plus, ou le site de Céline Alvarez. C'est d'une puissance. Mais c'est là où tu vois, en fait, que le système scolaire français est archaïque de fou et qu'ils n'ont aucune envie de le changer. De toute façon, parce que les personnes les plus privilégiées ont accès aux meilleurs instituts, aux meilleures écoles, ils vont utiliser les meilleures méthodes, même en dehors des méthodes qui sont préconisées par l'éducation nationale, ils vont les utiliser. Alors qu'elle, par exemple, elle a été en test à Argenteuil pendant je ne sais plus combien de temps. Il y avait des enfants de 5 ans qui avaient un retard de 2 ans, pardon, par rapport au niveau qu'ils devraient avoir à 5 ans. En 6 mois, elle leur a fait rattraper le retard. Ça veut tout dire. Et même quand tu regardes ces vidéos, c'est très, très, c'est limpide. Tu comprends très bien que l'enfant, à partir du moment où tu le mets dans les meilleures conditions, c'est un génie. Et souvent, moi, je dis, et j'essaye de le dire aux instits de ma fille, me faites jamais croire qu'elle est normale. Parce qu'en fait, même aucun enfant, aucun de ses camarades n'est normal. Aucun enfant n'est normal. Au début, moi, quand on nous a dit qu'on aurait un fils, c'était l'obstétricien, c'était le gynéco, je ne sais plus. J'étais à tous les rendez-vous auxquels je pouvais aller, j'étais là. Et ma femme était contente que je sois là. Hein. Je ne m'imposais pas dans des rendez-vous genre non, je veux être là, je ne peux pas être enceinte, mais je serai là jusque... non. Mais j'étais tout le temps là et donc du coup, le médecin me dit, c'est un fils, vous devez être content. Moi, c'était une insulte. Ma fille, c'est ma petite ombre. Lui, c'est la deuxième ombre maintenant, tu vois. Des fois, quand il y a deux lumières, deux sources de lumière, il y a deux ombres qui... Et en fait, je me suis dit... Et il y a plusieurs des connaissances, pas des amis m'ont pas trop dit ça. Mais quand des gens te disent « Ah, t'as un fils, tu vas avoir un fils, tu dois être content hein. !» Limite, ils mettraient leurs couilles sur la table, quoi, pour montrer que... Je sais pas. Et moi, il m'a fallu... je sais pas. Et je l'ai aimé dès le début. Mais par contre... Le fait de ne pas le considérer comme un premier enfant, c'est un étranger dans ta vie. Donc, tu essayes d'avoir des... Surtout pour ma fille, pour notre fille, c'était essentiel pour moi. Je me disais, c'est une fille. Tu veux lui apprendre le féminisme ? Ok, c'est une chose. Mais par contre, même dans tes gestes, il faut que tu sois doux. Bon, après, on ne l'est pas tout le temps. Hein. Mais presque tout le temps, il faut que tu sois doux. Surtout pour un bébé, un nouveau-né. Si jamais tu es brusque, si jamais tu la tires par le bras, si jamais tu... C'est les premiers signes qu'elle va avoir d'un contact avec un homme. Et donc, même si je suis son père, je me disais, il faut être doux. Tout ce qui est toilette, des parties génitales, il ne faut pas insister. Il ne faut pas rester longtemps sur ces parties-là et tout. Pour moi, c'était vraiment très important. Il fallait qu'elle soit propre, évidemment. Je ne vais pas la laisser sale parce que je me dis, il ne faut pas que je touche ces parties génitales. Mais par contre, je me disais... Toute cette zone, c'est une zone où il faut qu'elle comprenne très vite que ce n'est que sa zone à elle, tout son corps, hein, mais en particulier. Et même très rapidement, on lui a appris à se laver seule, parce qu'on lui disait, si jamais tu sais te laver seule, ça veut dire, elle avait 3 ans qu'elle savait se laver déjà. Je lui disais, si tu sais te laver seule, ça veut dire que personne ne doit te demander d'être nue, vu que potentiellement, tu sais te laver seule. Donc, à la limite, que toi, des fois, parce que c'est un bébé, c'est une enfant, tu vois, des fois, elle dit... « Maman, est-ce que tu peux me laver ? Papa, est-ce que tu peux me laver ?» Donc, évidemment, tu vois, faut lui laisser ça, c'est une gamine, tu vois. Mais c'était très important pour nous de bien lui dire. Et même, il y a un truc, des fois, ça pique. Hein, parce que des fois, tu veux l'aider, par exemple, la dernière fois, on était à un rendez-vous médical pour son frère, et le médecin lui dit « Tu peux aussi t'asseoir à côté. » Le médecin fait le signe, et moi, je vais pour la porter. Elle dit « Non, je peux monter tout seul, papa. » Et je vois qu'elle galère. Parce que c'est un peu haut le truc. Et elle n'avait pas la marche. Elle galère. Donc, du coup, je la mets. Je la pose sur le siège, là. Et elle dit ce qu'elle dit parfois, mais heureusement pas à moi. Elle dit « Papa, j'avais dit non et t'as quand même fait. Alors que tu m'as dit « Quand on dit non, c'est non. » Tu m'as appris « Quand on dit non, c'est non. » Et je me suis dit oh, « Et ça te pique au plus profond dans ces moments-là. » Parce que toi, t'as voulu l'aider, mais elle a dit non. Et parfois, elle raconte des histoires de l'école. Et elle dit, j'ai dit non, et elle a continué, alors que quand c'est non, c'est non. Et vraiment, elle, pour elle, c'est... Et maintenant, son petit frère, lui, il est aussi en mode, non, papa, j'avais dit non. Il le dit pas comme ça, aussi bien. Hein. Et je me dis, c'est bon, je voulais ou te rajouter du riz, ou je sais pas quoi, c'est bon, détends-toi. Mais sauf que je vais jamais leur dire, oh, c'est bon. C'est dans ma tête où je me dis, ah, ils sont relous quand même, là. C'est des bases que je leur ai transmises avec fierté, mais ça revient vite en boomerang. Mais en fait, déjà, faut pas les délire. Ouais, moi, je dis pas à mon enfant que je l'aime. Faut le dire en mode rafale. Je suis désolé d'utiliser ce terme guerrier, surtout que je suis anti-militariste. Mais il faut y aller... Les bisous, les je t'aime, les paroles positives, comme on a une, comment on dit, tous les soirs avec ma fille, avant qu'il y ait notre fils. Au début, c'était, en fait, ça s'est étoffé après, parce que je me suis dit, il faut rajouter des choses. C'était, tu vas bien dormir, donc c'est pas, essaye de bien dormir, c'est pas, c'est tu vas bien dormir, et n'oublie jamais. Et ensuite, c'est moi qui enchaînais quand elle savait pas encore parler, donc depuis qu'elle avait quelques mois, hein. Et ensuite, je me demande même si c'est pas depuis la naissance. Et ensuite, maintenant qu'elle sait parler, c'est elle qui le dit. Et c'est, tu vas bien dormir et n'oublie jamais, tu es très intelligente, tu es forte, tu es belle, ta peau et tes cheveux sont magnifiques, tu es noire et tu es fière, tu peux vaincre tout ce qui attaque ton corps, tu peux vaincre le patriarcat, tu peux vaincre le racisme. Tu dois écouter tes parents, ça a été rajouté il n'y a pas si longtemps. Tu dois écouter tes parents, tu peux apprendre tous les jours, tu ne dois laisser personne te faire du mal, tu ne dois laisser personne faire du mal aux autres, et tu ne dois faire du mal à personne. Et à la fin, c'est « et tu peux faire les choses par toi-même ». Parce qu'elle est tellement dans l'observation, depuis petite, qu'elle est dans le mimétisme de beaucoup de choses. Et donc, du coup, elle se met à imiter des enfants qui sont plus en retard par rapport à elle, parce qu'elle aime bien, en fait, elle aime bien imiter les gens. Donc, du coup, elle est dans une classe où elle est parmi les enfants qui sont les plus en avance. L'année dernière, elle était le plus en avance. Et là, je pourrais parler longtemps du système scolaire et pour dire que, en fait, s'ils ont décidé que ton enfant est normal, ils vont le rendre normal. Et si tu n'es pas attentif à ça, ils vont finir par rendre ton enfant normal. Donc, il faut être très attentif. Il ne faut pas hésiter à demander des rendez-vous. Il ne faut pas hésiter à ce qu'en gros, ils se méfient, en fait. Ils se disent, bon, c'est la gamine de l'autre, relou. On va faire attention. Vraiment, les conseils que j'aurais, c'est vraiment être dans la positivité le plus possible. On a tous nos histoires qui sont parfois difficiles à dépasser. Et des fois, ne serait-ce que dire « je t'aime », c'est difficile. Ne serait-ce que être dans la bienveillance, c'est difficile. Mais au fur et à mesure, à partir du moment où c'est le but qu'on veut atteindre, on l'atteint. Et au fur et à mesure, toute la bienveillance qu'on va envoyer à l'enfant, c'est comme l'histoire du riz qu'on plante dans un pot et le riz qui est planté et à qui on dit tous les jours des mots doux. Et le riz qui est planté dans un pot identique avec la même eau et à qui qu'on insulte tous les jours. Les deux pots, il y a eu plusieurs expériences du même genre. Avec les plantes, ça marche pareil. N'importe quelle plante, ça marche pareil. Le riz qui aura reçu des mots doux, il va bien pousser, être beau. Le riz qui aura reçu des insultes, il va être plus jaune. Le riz, tu vois, ils sont vertes, les pousses de riz. Et en fait, il va être plus jaune, moins poussé, il va attraper des maladies plus facilement, etc. En fait, c'est lié à l'eau. Et en fait, on est constitué à je ne sais plus combien, je crois 90% d'eau. Peut-être pas 90, ça doit être un fruit ou un légume, peut-être. non, ça doit être peut-être 40 ou 50% d'eau. En fait, je pense que toute cette positivité qu'on renvoie à l'enfant, c'est ça qui fait qu'il devient... Et je le vois quand on fait des exercices avec ma fille, elle adore ça. Des exercices ou des additions, ou des exercices de syllabes, etc. J'avais arrêté pendant presque 2 ans parce qu'il y avait eu des problèmes avec son instit, sa première instit. Et en fait, ça m'avait coupé les pattes. C'est pour ça que je parle de l'histoire. Et je l'avais déscolarisé sur le dernier trimestre de la toute petite section. C'était pas en petite section, c'était en toute petite section. Quand tu t'aperçois que l'encadrant n'est pas dans la bienveillance totale, que ton enfant, t'es inquiet pendant la journée, etc. Si t'es avant l'âge obligatoire, ton enfant embarque-le chez toi et fais ta petite tambouille d'autodidacte avec ton enfant, il s'en sortira pas plus mal. Il y a des moments, en fait, où je suis moins patient. Parce que je me dis, mais elle a compris ça, pourquoi elle ne le répète pas? Mais en fait, l'enfant, c'est la répétition qui fait que ça se grave. S'il n'y a pas la répétition, elle a beau avoir compris, elle va refaire une erreur. Et les erreurs vont lui permettre de se construire et d'être de plus en plus solide sur les acquis de ce qu'elle est en train d'apprendre. Et en fait, quand tu es plus patient et tu es plus doux, c'est presque magique. Comment, pour le même type d'apprentissage, quelque chose où tu as été impatient, où tu as dit... Mais non, franchement, je t'avais déjà montré, je sais pas quoi. Non. Et le truc où tu dis, non mais c'est normal de se tromper. Et quand on se trompe, les erreurs qu'on fait permettent qu'on va savoir encore mieux. Et elle se dit, ah, il est gentil, il m'écoute, il me comprend. Et là, tout de suite, son cerveau, il est décuplé, il est surpuissant. Et c'est pareil quand tu fais du sport, 15 minutes avant d'apprendre quelque chose à un enfant, dans les 15 minutes avant, tu fais du sport avec lui, par exemple, tu descends, tu cours un peu avec lui, etc. Sa capacité d'apprentissage est décuplée parce qu'il y a des choses liées au psychomoteur. D'ailleurs, le psychomoteur, quand je disais c'est ma passion, c'est que ma fille, je lui ai appris à tomber, et j'ai fait pareil pour mon fils, avant qu'elle puisse même se tenir debout. Parce que je me disais, il faut qu'elle sache tomber avant d'apprendre à marcher. Ce qui fait que ça a toujours été des gamins qui tombaient sans pleurer, qui, même quand ils se faisaient mal, ils pleuraient, mais 3 secondes chrono, c'est genre... Ça s'arrête et quand quelqu'un a été témoin de cette scène, il disait « mais elle s'est déjà arrêtée ?» Ben ouais, elle a pas le temps de... Si elle souffre, elle souffre. Si elle a de la peine, elle a de la peine. Elle va pleurer, elle va le dire, elle va être écoutée sans aucun problème. Mais par contre, les deux... Moi, je sais que j'étais un petit pleurnichard. J'étais un petit enfant robuste, mais j'étais un petit pleurnichard. En tout cas, il y a tellement de photos où j'ai la morve au nez et les larmes aux yeux que je sais pas... Mais bon, après, il n'y avait peut-être pas la positivité paternelle qu'il fallait avec. Hein, mais... Alors que ma mère, justement, elle était dans une positivité totale depuis gamin. Elle l'a toujours été. Et moi, je pensais, oui, je t'en avais parlé aussi, je pensais que ça venait de l'éducation ancestrale, de ma grand-mère, de tout ça et tout. Pour moi, c'était mon fantasme, c'était ça. Et un jour, elle m'a dit, mais bien sûr, quand je suis arrivé en France, je loupais pas les émissions de Françoise Dolto. Et moi, je me suis dit, mais non, c'est pas Françoise Dolto, ça doit être grand-mère, ça doit être Bombo, je sais pas quoi. Elle me disait, non, vraiment, je loupais pas. Et ça a toujours été, donc du coup, ma mère ne nous a jamais frappés. Et après le divorce, je lui ai même dit, mais maman, tu nous as jamais frappés. Ou en tout cas, peut-être une claque, une fois en 18 ans, je sais pas. Non pas qu'elle nous ait frappé après, mais c'est que après, tu frappes plus tes enfants. Bon, ça se discute, hein. À la Camerounaise, bon. Les Camerounais ne m'en voulaient pas non plus. Hein. Et elle m'a dit, tu avais déjà reçu tellement de coups avant que je pense que tu en as eu pour toute une vie. Et donc, du coup, bon. Et bon, après, je ne pense pas avoir été un enfant battu, mais par contre, la disproportion dans les punitions était... Il n'y avait pas de doute. Il y avait une grosse disproportion sur, sur les coups donnés. C'est pas que à la femme de gérer ça. Autant une femme peut faire le choix de faire un enfant tout seul parce que c'est elle qui va le porter pendant 9 mois. Autant un homme ne peut pas imposer à une femme de lui faire un enfant. Et ça, c'est aussi des situations qui existent. Donc du coup, il y a des moments où même ça peut même être un peu frustrant. Mais sauf que tu te regardes dans ton miroir et tu te dis tes valeurs féministes, c'est bien gentil, oui, tu voudrais un enfant. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle... Voilà, il faut faire son mea culpa. Hein. C'est pas simple. De toute façon, on a grandi dans une société patriarcale et on a tous ce schéma-là dans le crâne. Si on ne le déconstruit pas, c'est comme pour le racisme. Les blancs qui disent « moi, je ne vois pas les couleurs », c'est peut-être les pires. Ils sont peut-être pires que certains racistes parce qu'en fait, le jour où il y a un pétage de plomb, tu entends des mots de leur bouche que tu aurais juré ne pas pouvoir entendre d'eux parce que c'était pas, parce que depuis enfance, parce que ceci, je sais pas quoi. Eh bien, c'est pareil pour le féminisme. C'est pareil. C'est qu'il faut que la déconstruction soit permanente. Parce qu'il y a toujours les schémas machistes, les schémas... Et en fait, il faut toujours se remettre en question là-dessus. J'ai l'impression de pas trop mal m'en tirer, mais j'ai l'impression de pas trop mal m'en tirer aussi parce que j'ai beaucoup d'amis féministes. Mais d'ailleurs, Yann Delapaille que tu avais eu sur le podcast, qui est super inspirante, qui est puissante, et quand tu l'as au téléphone, déjà, tu n'as pas envie de raccrocher, ça peut durer longtemps, et elle est toujours juste. Elle est intransigeante, hein. Mais elle est toujours juste. Et en fait, depuis gamin, je suis le gars qui défend les petites filles à la cour de récré, etc. Et on m'a remonté des témoignages comme ça encore récemment, alors que j'avais complètement oublié. Et en fait, je me dis, il faut de la cohérence. Tu ne peux pas transmettre ça à tes enfants si toi, tu ne l'es pas. Et non pas que j'ai beaucoup de choses à me reprocher, hein, mais des fois tu fais ton autocritique et tu te dis, bon, est-ce que c'est totalement juste, ça ? Est-ce que tu en serais fier publiquement, même si c'est jamais des histoires de violence ou quoi que ce soit? Mais des fois, tu te dis, ouais, bon, non, bon, ça, faut peut-être que je mette de l'eau dans mon vin, même si je bois pas d'alcool. Et c'est un combat, en fait, que, comme pour le racisme, il faut qu'on le mène. Et surtout, il faut qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui prennent la parole sur le sujet pour inspirer, parce que c'est comme pour le racisme. Un blanc qui va parler à ses amis blancs, il va avoir plus de poids qu'un noir qui dit... « Ouais, mais vous vous rendez pas compte, c'est raciste. » Et après, entre eux, ils vont se dire « Hey, il devient relou, Mamadou. Doudou. Il devient relou, Doudou. Il était sympa quand on pouvait faire des blagues à la Michel Leb et qu'il riait avec nous. » Ah, ben, il riait avec vous parce qu'en fait, il a grandi dans une société raciste et que c'est très difficile de se détacher de ça. Et pareil, pour le féminisme, en fait, les blagues sexistes, tout ça, des fois, t'es tenté d'en faire. Parce qu'en fait, on nous a transmis ça dans le biberon. Et tu te dis, non, est-ce que c'est drôle? Est-ce que toutes les femmes en riraient? Sans aucun doute, certaines en riraient. Mais en fait, est-ce que la balance entre celles qui en riraient et celles qui seraient réellement blessées n'est pas totalement déséquilibrée? Parce que entre rire et ne pas rire, ok, tu es dans la neutralité et tu ris, ça te fait plaisir. Mais être blessé, là, ça veut dire que tu passes dans le négatif et ça laisse des séquelles. Je pourrais faire un podcast de 2 heures avec toi. C'est bizarre, mais là, j'ai vu un reportage sur Myriam Makeba ce matin. Donc, il y a Myriam Makeba, mais tu m'as dit afrodescendante, elle est africaine. Donc, elle est de fait afrodescendante, mais elle est africaine. Donc, afrodescendante, ces dernières années, il y en a plusieurs qui m'ont vraiment touché. Il y a Iseult, Lose and the Yakuza. Ah oui, non, j'allais pas la dire, j'allais l'oublier, parce que là, je suis sur le récent. Mais pour moi, le meilleur rappeur est une femme. C'est la meilleure rappeuse, c'est Kazé, c'est un truc de fou.
J'ai J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré.
Non, Cazet, c'est un truc de fou en fait, parce que dans ses textes, je me sens parfaitement représenté quand elle parle du racisme, quand elle parle de sa colère, quand elle parle de son enfance, même si elle c'était en province. Et le talent d'écriture qu'elle a, d'écriture, de phrasé, non, Cazet, C-A-S-E-Y, c'est une chose. Je pense à Sac de sucre, qui parle de l'esclavage. Créature ratée, elle parle de l'homme, la femme noire. Et elle en parle en fait avec les mots des esclavagistes de l'époque, les mots qu'ils mettaient. Et donc du coup, elle fait la comparaison entre comment ils se décrivaient eux-mêmes en tant que blancs et comment ils décrivaient les noirs. Ces deux morceaux, c'est une folie. Il y a Viola Davis qui me vient en tête tout de suite, mais c'est presque trop facile. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont dit. Aïssa Maïga, j'aime beaucoup. J'aime pas forcément beaucoup les rôles qu'elle avait dans certains films qu'elle a eus quand elle était plus jeune. Mais par contre, sa capacité de s'engager aujourd'hui, pour moi, c'est la bosse. Après, il y a Annabelle Langrenne, qui est une amie, qui a été nommée au César récemment. Mais non, mais Aïssa, elle aurait pu continuer à retirer les marrons du feu et se taire. Mais non, elle, en plus, c'est une fille de militant, de journaliste proche de Thomas Sankara, qui avait été assassiné d'ailleurs. Son papa, Mohamed Maïga. D'ailleurs, il y a une compilation qui s'appelle « Parler d'années de la terre » dans laquelle il y a les Colombes de la Révolution, qui est un groupe burkinabé, qui chante une chanson qui est en hommage à Mohamed Maïga, le père de Aïssa Maïga. J'ai envie d'être positif, mais en même temps, c'est pas négatif. Tant que je serai noir, je me battrai. Et tant que je serai noir, je brillerai.
Blanc ingénieur, noir ingénu, au rang des seigneurs ou dépourvu de génie, grand vainqueur à l'âme de gagneur, ou fainéant et menteur, tout ça dans un même corps réuni. Race qui réussit, espèce peut avancer sans histoire écrite.
Merci à Mahon pour ce bel épisode, merci à vous, auditrices et auditeurs, car sans vous, le podcast n'existerait pas. Je remercie Alice pour le super montage de l'épisode. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, les belles fréquences. Merci à Agnès pour l'illustration. Pareil, vous pouvez la trouver sur Instagram sous le nom Agnès Illustration. Enfin, vous pouvez suivre Tant que je serai noir sur Instagram. Et n'oubliez pas de liker, partager et laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts. Merci et à tout bientôt pour un nouvel épisode.